France Info.
Bonsoir, bientôt le milliard de promesses de dons, la nécessaire générosité pour rebâtir Notre-Dame, eh bien, fait aujourd'hui débat, c'est à la une des informés de France Info. Faut-il reconstruire la cathédrale à l'identique? Est-ce possible en 5 ans? La bataille d'experts fait rage. Emmanuel Macron, lui, se voit contraint de réviser sa stratégie de sortie de crise balayée par l'incendie de la cathédrale. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Audrey Goutard.
Bonsoir.
Journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info. Invité également Julie de la Sablière. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Ravie de vous retrouver. Fondatrice de l'agence de conseil Little Wing, enseignante en communication de crise. Ça tombe bien. À Sciences Po. Avec nous également, c'est mercredi, Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Bienvenue, cofondateur et directeur d'Atlantico et invité ce soir, Serge Auru. Bonsoir et bienvenue à vous. Vous êtes bonsoir. Conseiller auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo, ancien directeur général du WWF France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. 850 millions de promesses de dons en 48 heures. La mobilisation pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, dont l'incendie a suscité une émotion planétaire et sans précédent. Le chef de l'État en a fait une priorité nationale. C'était hier soir, extrait de l'allocution d'Emmanuel Macron.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons.
Alors, Audrey Goutard, je sais que vous êtes devenue experte en 3 jours hein, sur Notre-Dame de Paris. 5 jours, c'est réaliste, c'est pas réaliste, ça fait débat, ça aussi.
5 ans.
5 ans.
5 ans.
Oui. Il a fallu 5 ans à Audrey pour devenir experte.
5 jours, c'est pour les annonces de
mesures. 5 jours pour mon expertise, 5 ans pour rebâtir la cathédrale. Bah, écoutez, j'écoutais justement pendant ces 5 jours les experts. Alors, au départ, c'était intéressant parce que lorsque les flammes étaient encore là, on entendait les experts parler de 20 ans, 30 ans, 50 ans de reconstruction. Aujourd'hui, effectivement, le chiffre de moins de 10 ans apparaît plus. Je vous rappelle quand même que le château de Windsor, qui avait subi le même incendie, un incendie énorme, a été rebâti en 5 ans, le Parlement de Bretagne 5 ans, et puis après tout creuser le tunnel sous la Manche qui est quand même une sacrée affaire, il a fallu 6 ans, donc voilà.
Oui, joli comparatif, Serge Auru de Paris, la mairie de Paris, 5 ans c'est l'objectif JO en fait.
Tout à fait. Mais
vous l'assumez?
C'est important de reconstruire Notre-Dame de Paris, c'est 12 millions de visiteurs par an, c'est une économie énorme. Donc il faut reconstruire, et puis c'est un symbole fort. Lorsqu'on souffre, il faut se relever, il faut reconstruire en 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais en 5 ans, c'est un pari important.
Jean-Sébastien Ferjou, sur ces 5 années lancées par le chef de l'État, on a l'impression que c'est un nouveau chantier du président de la République.
Il y a un moment d'émotion nationale certain, un moment même de communion autour de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Donc moi, j'ai aucun avis sur la durée du chantier, parce que je vois pas tellement comment je pourrais en avoir un qui soit pertinent. Maintenant, je pense qu'il faut qu'Emmanuel Macron fasse attention, parce qu'il a été dans la note très juste lundi, déjà un peu moins juste hier. Il ne faudra pas aller trop loin, parce que du point de vue peut-être des catholiques, c'est très bien de voir Notre-Dame de Paris comme un enjeu économique, comme vous le soulignez à l'instant, ou peut-être même comme un enjeu national, mais ce sera bien aussi d'entendre la voix de l'Église dans les débats sur la bioéthique. Et je pense qu'il pourrait y avoir un risque électoral à trop tirer sur la corde pour ensuite.
Vous êtes d'accord avec ça, Julie Lassabillière? C'est l'espèce de sujet qui s'impose.
Encore, mais
peut-être c'est bien un risque.
Oui, c'est un peu tôt pour parler de risque. Enfin, vous parliez de 5 jours, ça fait pas 5 jours, ça fait juste 3 jours.
3 jours.
Et on est encore dans le temps de la communion. On a encore envie d'entendre les cloches sonner ce soir à 19h. On a encore envie d'entendre les récits des pompiers qui ont vécu cette expérience. Je pense qu'on est encore dans ce temps-là. Et c'est vrai que vous êtes des gens de médias et sans doute qu'il y a des, voilà, vous avez l'impression de beaucoup en entendre parler, mais je pense que les Français sont encore dans ce moment.
Hier soir, par exemple, le président de la République n'a pas employé le mot catholique pendant son allocution.
Alors,
qui, du point de vue des catholiques, était une erreur.
Je vous propose de repartir sur l'autre débat qui est sorti finalement avec cet afflux massif de dons, c'est celui de l'argent. Les 3 plus grandes fortunes françaises, dans le désordre, Arnaud, Bettencourt, Pinault, totalisent 500 millions de dons à elles seules. Écoutez ce qu'en a dit Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Il était l'invité de France Info ce matin.
C'est la démonstration que, vous savez, que quand on dit qu'il y a de l'argent dans ce pays, vous voyez qu'il y a des milliardaires qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte, en un clic, j'allais dire, 200 millions, 100 millions, ça montre aussi les inégalités, ce que nous dénonçons régulièrement, les inégalités dans ce pays. Et j'aimerais connaître la position des salariés des groupes que dirigent ces PDG qui ont eu à qui on dit vous coûtez trop cher, il n'y a pas d'argent pour vous augmenter. Vous voyez, il faut aussi de la mesure.
Audrey Gouttard, ce débat autour de l'argent est monté très vite, hein, très vite, en 48 heures.
Oui,
vous le comprenez?
Il est monté très vite. Alors, je me demande ce qu'on aurait dit si les plus riches n'avaient pas donné. Donc déjà, voilà, ils donnent. Franchement, quand il y a de l'argent à récupérer, tant mieux sur une cause nationale comme celle-là. Après, ce qui est intéressant dans ce que disait la personnalité qu'on entendait, c'est que il disait en un clic. Alors, c'est plutôt, je dirais, le tempo de ce don qui peut interroger. C'est-à-dire que ça a été tellement vite dit, c'est-à-dire du tac au tac, hop, il se passe un incendie, hop, les plus grandes fortunes donnent de l'argent. Ça donne l'impression, effectivement, que cet argent est totalement à leur disposition tout de suite, ce qui est peut-être le cas. Et il aurait peut-être fallu attendre 2-3 jours avant de parler
argent. Vous pensez qu'il y a une forme d'indécence à dégainer si vite? Julie Lassablière, cet argent est disponible?
Cet argent, c'est vrai qu'ils ont dégainé
très
vite.
Ce sont des promesses, hein, de dons.
Oui, bien sûr, ils ont dégainé très vite. En même temps, ça montre que ces groupes-là, LVMH, Kering, ils savent aussi ce qu'ils doivent à la beauté du patrimoine français et à l'image de la France qui rayonne dans le monde. Et je pense qu'effectivement, ils sont allés vite, mais c'est aussi ça l'effet d'entraînement, le message qui est donné aussi à tous les donateurs du monde entier.
Vous voulez dire à la hauteur aussi de l'émotion suscitée par la destruction d'un tel joyau.
Évidemment que les milliardaires, ils se regardent entre eux et que le fait d'avoir annoncé très vite, ça fait aussi un effet en chaîne qui est positif pour nous les Français, il faut l'assumer.
Bon.
Et l'accepter.
Allez, nous restons sur cette thématique des dons, des promesses de dons, en réalité de l'argent, mais pour l'heure 20h10 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Les préfets porteront plainte dès qu'un chant homophobe sera entendu dans un stade de football, annonce ce soir sur France Info la ministre des Sports. Roxana Maracineanu précise qu'une première plainte a été déposée après le match de Ligue 2 Lens-Valenciennes le week-end dernier. Il y a un peu plus d'une heure, les cloches de toutes les cathédrales de France ont commencé à sonner. Moment d'émotion, 48 heures après le départ de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. La reconstruction de l'édifice était au cœur d'une réunion cet après-midi à l'Élysée. 5 ans pour la réouverture est tout à fait plausible, a estimé à sa sortie Stéphane Bern. Le monsieur patrimoine auprès d'Emmanuel Macron y participait, tout comme une batterie d'experts. Le gouvernement suit les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il interdit le dioxyde de titane dans les denrées alimentaires dès le début de l'année prochaine. Ce colorant E171 est présumé cancérigène. Empêtré dans un scandale de corruption, l'ancien président du Pérou, Alan Garcia, s'est suicidé tout à l'heure. À 69 ans, il s'est tiré une balle dans la tête au moment où les policiers venaient l'arrêter. Le foot sur les terrains ce soir, début de la deuxième mi-temps entre Nantes et le Paris Saint-Germain. À la pause, les Canaries menaient 2-1. Si les Parisiens retournent la vapeur et l'emportent, alors ils seraient sacrés champions. Et puis à 21h, les quarts de finale de la Ligue des Champions. FC Porto, Liverpool et Manchester City, Tottenham.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous évoquons le presque milliard de promesses de dons déjà avancées pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Tiens, dernière en date à sortir le chéquier, c'est Disney, 5 millions de dollars. Le film d'animation, le bossu de Notre-Dame, je suis allé chercher ça, avait généré 325 millions de dollars de recettes. Serge Auru, cette valse des millions, des centaines de millions, est-ce qu'elle vous choque ?
Non, ce sont des donateurs privés, certes, mais je trouve que ça peut être intéressant. Imaginons, nous ne savons pas ce que coûtera la reconstruction de Notre-Dame de Paris, mais imaginons que cela coûte 1 milliard, 1,5 milliard. Donc les donateurs privés, français, étrangers vont largement couvrir cette somme. Donc l'État français n'aura pas à donner 1 milliard, 1,5 milliard dans la reconstruction. Est-ce que je peut proposer ce soir, c'est que ce 1,5 milliard, en tout cas la somme investie par des donateurs privés à Notre-Dame de Paris, pourrait être affectée par l'État français, qui donnerait la même somme pour tout le patrimoine historique français.
Vous en 10 ans, pour c'est les autres possible. Cathédrales de France.
Oui, pas entre que les cathédrales, entre autres, l'ensemble des monuments,
les patrimoines.
Le patrimoine historique français, donc forcément les églises, mais il y a d'autres monuments historiques qui méritent. Je crois que cette idée pourra plaire à notre ami Stéphane Bern.
Jean-Sébastien Ferjou, vous seriez d'accord avec une telle proposition? C'est-à-dire qu'au fond, le secteur privé vient au secours du patrimoine national public. en l'occurrence français.
C'est très anglo-saxon, effectivement, comme approche. Et quoi qu'il en soit, quand on voit l'état des églises, notamment des églises parisiennes, effectivement, il y a un besoin d'investissement dans le patrimoine français, qu'il soit religieux ou non religieux d'ailleurs. Après, je trouve qu'il y a un côté un peu délirant à cette polémique. On devrait plutôt en tirer la conclusion que quand la dépense publique a un sens, quand la dépense publique est fléchée, à ce moment-là, même les gens qui par ailleurs peuvent être tentés par l'optimisation fiscale, et je parle pas là uniquement des milliardaires, mais parce qu'il y a des tas de Français moyens, lambda aussi, qui donnent de l'argent pour la reconstruction de Notre-Dame ou qui avaient acheté des tickets au loto de Stéphane Bern d'ailleurs pour le patrimoine. Quand cet argent-là, on sait qu'il ne va pas, et je vous parle pas là évidemment des infirmières, des policiers ou etc., parce qu'il y a des dépenses de services publics dont personne ne doute de l'utilité, mais on met tous sous les yeux une espèce de gâchis, de gaspillage permanent, eh bien on voit, et ce serait intéressant qu'Emmanuel Macron, dans le cadre du grand débat, l'entende, ou que peut-être les fonctionnaires de Bercy l'entendent aussi, quand la dépense publique a un sens, eh bien les gens rechignent beaucoup moins à payer, quel que soit finalement le montant.
Alors Serge Rive, oui, encore un mot peut-être. Bah, oui,
le patrimoine historique, c'est de l'emploi. C'est dans nos régions, donc c'est vraiment important de le préserver. Et je pense que l'État, qui a la chance d'avoir autant d'argent de la part des donateurs, pourra apporter sa
puis
part.
En 10 ans, le tir,
franchement, 1,5 milliard. En 10 ans, c'est 150 millions d'euros par an.
Alors, puisque vous évoquez cet aspect des choses, les patrimoines en France qui ont besoin d'être sauvés, eux aussi, écoutez ce qu'on a dit au Don Valais. Les collectivités locales, pour lui, eh bien, doivent garder leurs dons pour sauver les petites églises, notamment hein, dans les villages. Le cri du cœur de l'historien des religions, c'était avec notre confrère le Dauphiné Libéré.
Moi, je leur dis, gardez vos sous pour les bâtiments de votre commune, de votre département, de votre région, notamment des églises en très mauvais état et qui parfois menacent ruine. Je crois qu'il ne faut pas oublier, comme l'ont montré les Gilets jaunes d'ailleurs, la France rurale, la France, je dirais, des gens de peu.
Voilà, donc interview à nos confrères de la presse du Dauphiné Libéré. Gardez vos sous pour vos petites églises, entre autres, hein, c'est ce que dit Odon Vallée, vous validez Audrey Goutard.
En tout cas, c'est tout à fait d'actualité, puisqu'on parle de la France rurale et justement celle qui a l'impression de ne pas être entendue, de ne pas être gâtée du tout. Donc sa proposition est complètement d'actualité. Ensuite, il y a une autre, c'est intéressant, c'est que effectivement, comme le disait Jean-Sébastien Ferjou, c'est une méthode très anglo-saxonne. C'est-à-dire que nous, on est habitués à ce que ce soit l'État, puisqu'on paye des impôts, qui viennent en aide, justement, lors de catastrophes comme celle-ci, qui viennent en aide et qui subventionnent. Là, ça n'est pas le cas et c'est assez novateur pour nous. Novateur, quoique, puisque je vous rappelle que la plupart des expositions dans les musées sont aujourd'hui sponsorisées par des grosses boîtes privées qui sont ravies de mettre leur petite étiquette en disant tableau rénové grâce à telle boîte.
Serge Rue, au passage, la mairie de Paris, le chèque, c'est...
Anne Hidalgo a annoncé 50 millions d'euros, le proposera au Conseil de Paris.
Il faudrait presque, du coup, si je suis bien votre raisonnement, le consacrer à d'autres édifices.
Vous savez que la mairie de Paris consacre beaucoup d'argent aux édifices religieux à Paris.
Allez, dans la lignée de la déclaration, vous vous défendez bien, ça va, présidentielle. Hier soir, le Conseil des ministres était entièrement consacré à Notre-Dame de Paris. Édouard Philippe, de manière très solennelle, a annoncé aujourd'hui un concours international d'architectes, un soutien fiscal aux dons et un projet de loi pour une souscription nationale. On l'écoute.
Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut, comme c'est souvent le cadre et le cas dans l'évolution du patrimoine et l'évolution des cathédrales, doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque.
Julie de la Sablière, voilà donc un nouveau sujet, la flèche.
Eh ben c'est très bien, débattons de patrimoine, puisque c'est un nouveau sujet. Et effectivement, je pense que c'était aussi bien qu'il y ait cette ouverture vers...
Qu'est-ce que vous dites de la conférence de presse là avec le ministre de la Culture, la porte-parole du gouvernement? C'est très solennel tout
pas
ça.
Pas très solennel, et c'est vrai que ça a surpris qu'on consacre tout un Conseil des ministres à ce sujet ce matin.
C'est
vrai
trop
que tous les ministres...
Pour vous, c'est trop
répondus. Bah, surprenant, je trouve qu'on est... Enfin, je pense qu'on est encore dans ce moment d'émotion et qu'il fallait le traiter. Après, c'est vrai que c'est une grosse attention. C'est aussi une façon pour le gouvernement gouvernement, et pour Emmanuel Macron, de récupérer son tempo de communication par rapport à ses annonces du grand débat. Et donc, il dit non, aujourd'hui, on continuera de parler de Notre-Dame, exclusivement de Notre-Dame, et on lance des nouveaux sujets, comme on adore en débattre sur la rénovation de la flèche, la rénovation de la toiture, comment on va faire.
Il faut rappeler ça, on a vraiment failli la perdre.
Absolument. La cathédrale, non.
On a failli la perdre. Le courage des pompiers et leur ingéniosité a fait que, mais on a failli la perdre.
Est-ce que l'on peut imaginer, tiens Serge Rue, puisque vous êtes spécialiste des questions de patrimoine à Paris, est-ce qu'on peut imaginer notamment des poutres en acier, une flèche en titane, des matériaux, on va dire, du 21e siècle, et pas forcément la reconstruction de l'édifice à l'identique?
À l'identique, pourquoi rester uniquement sur ce critère? Effectivement, il y a des nouveaux matériaux. On doit construire intelligemment. Aujourd'hui, on doit construire avec le moindre impact sur l'environnement. Donc, je pense que l'intelligence de l'homme doit provoquer un progrès forcément dans sa construction. Vous savez, la cathédrale a été construite en plus de 200 ans. Vous imaginez le nombre de générations d'architectes qu'il a fallu. Et à chaque fois, il y avait une évolution technologique incroyable. Donc, nous allons bénéficier de notre évolution technologique pour construire une très belle cathédrale.
Jean-Sébastien Ferjou, sur cet aspect très technique des choses, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de faire évoluer cette belle cathédrale avec des matériaux modernes? Est-ce que c'est un débat au fond? Parce que ça agite beaucoup d'experts.
Hein. Moi, je pense que c'est une question qui est parfaitement légitime. Enfin, les cathédrales, effectivement, ont toujours été des œuvres vivantes. Vous savez, quand on dit on ne va pas attendre 107 ans, pourquoi? Parce que 107 ans, c'était précisément le temps qu'il a fallu pour construire Notre-Dame. Donc, comme vous venez de le dire, il y a eu des générations successives. Il me semble, pour le coup, avoir lu des experts qui disaient que les chênes qui ont servi à la construction de la charpente de Notre-Dame, de toute façon, ne poussent plus aujourd'hui. Il n'y a plus de chênes aussi grands. Donc, je suis pas certain que ça ait vraiment du sens d'être dans une espèce de fétichisme de l'objet. Et pour le coup, je le rappelle, d'un point de vue catholique, et c'est ce que rappelait d'ailleurs le président de la conférence des évêques de France hier soir, il ne faut pas oublier que l'Église, c'est aussi une réalité vivante. Ce sont aussi les hommes, donc que le bâtiment lui-même vive, ça ne me paraît absolument pas choquant.
20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Force ouvrière claque la porte de la concertation sur la réforme des retraites. Elle touche à sa fin après un an et demi de discussion. FO estime que ses revendications ne sont pas considérées. Le syndicat ne veut pas cautionner la réforme à venir. Il demande au gouvernement de clarifier son intention sur l'âge légal de départ à la retraite. De nombreuses escroqueries signalées à la Fondation du patrimoine en France et à l'étranger, des mails ou des appels téléphoniques qui demandent des dons pour reconstruire Notre-Dame. Mais la Fondation rappelle qu'elle ne pratique pas ces démarches. Le plus sûr est de se rendre sur son site internet ou d'envoyer un chèque à son ordre. Pour garantir la collecte, le gouvernement annonce qu'il crée un organisme public. Mesure prise en Conseil des ministres ce matin, comme une défiscalisation dérogatoire, 75% pour les dons inférieurs à 1 000 euros. Le Premier ministre annonce aussi le lancement d'un concours international d'architectes pour rebâtir la flèche qui s'est effondrée. Marine Le Pen devant les juges aujourd'hui pour répondre à des questions sur des soupçons d'emploi fictifs au Parlement européen. L'enquête concerne des assistants d'eurodéputés FN. Ils auraient travaillé pour le parti également. Marine Le Pen avait déjà refusé par deux fois de répondre aux magistrats sur cette affaire. Et puis Benjamin Netanyahou est chargé de former le prochain gouvernement par le président israélien. Suite logique des élections législatives qu'il a remportées de justesse la semaine dernière, il doit s'allier avec l'extrême droite religieuse et identitaire.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et puis il y a l'enquête longue et complexe. Que s'est-il vraiment passé lundi soir? Le saura-t-on d'ailleurs un jour? La structure même de Notre-Dame de Paris est-elle fragilisée? Écoutez le récit de Philippe Demey, l'adjoint en chef des pompiers de Paris, qui donnait une conférence de presse sur le sujet aujourd'hui.
Il a fallu faire le choix. Quand on a envoyé l'adjudant-chef et en fait un commando d'attaque pour couper, barrer le feu au niveau des beffrois, c'est qu'il y avait une propagation qui était en cours au niveau du beffroi nord, au niveau des cloches dont tous les supports sont en bois. Si le feu gagnait cette structure en bois, le beffroi était perdu. À partir du moment où on perd la guerre du beffroi, en fait, on perd la cathédrale parce qu'il y a effondrement en chaîne.
Serge Rue, vous soulignez tout à l'heure le courage des pompiers, les choix qui ont été faits par le commandement des sapeurs-pompiers de Paris qui ont permis de sauver au fond l'essentiel de la cathédrale.
Vous savez, quand on se plaint de nos impôts et quand on voit à quoi servent nos impôts pour offrir des salaires à nos pompiers si valeureux, on ne peut vraiment que s'en réjouir.
Non, on ne se plaint pas forcément de nos impôts, on se plaint de l'allocation de nos impôts, parce que si nos impôts étaient bien alloués, précisément, les pompiers pourraient être mieux payés sans qu'il y ait de gaspillage et sans augmenter les impôts. C'est ça le sujet, ce n'est pas le niveau des impôts.
Et demain après-midi, il y aura d'ailleurs, sur le parvis de l'hôtel de ville, un hommage à tous les pompiers qui ont... les valeureux pompiers qui ont sauvé la cathédrale de Paris.
Ouais, Audrey Gothard, n'en déplaise aux complotistes hein, de tous bords qui s'expriment ça et là, la piste accidentelle semble privilégiée.
Oui, le procureur a été très clair là-dessus, elle est largement privilégiée pour le moment. En revanche, et c'est ça qui crée effectivement des fantasmes, c'est que pour l'instant, la brigade criminelle qui est chargée de l'enquête, je vous rappelle qu'il y a 50 enquêteurs, ne parviennent pas à accéder au lieu, ni le laboratoire de la police scientifique qui a pu y jeter un œil aujourd'hui, mais c'est tous les premiers pas dans les débris, dans ce qui reste de la toiture. Donc pour le moment, effectivement, on ne peut pas déterminer les causes exactes de l'incendie. Il va falloir un long travail et encore, on n'est même pas sûr que ce travail aboutisse.
Oui, Jean-Sébastien Ferjou.
C'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Mais je pense qu'il n'y a aucune raison de douter de ce qu'a dit le procureur de Paris. Mais tout de suite parler de complotisme pour les gens qui se posent des questions. Alors certains ont échafaudé des théories. Là, effectivement, on sombre dans le complotisme.
C'est par rapport au statut, sur les toits qui étaient...
Non, mais je faisais pas spécialement référence à vous. Je disais qu'il y a un vrai coup politique à ne pas sous-estimer, à renvoyer directement, alors que dès lundi soir, je vois pas comment quelqu'un pouvait dire qu'il était absolument certain dans un sens ou dans l'autre, que les gens se posent des questions paraît naturel. Il faut évidemment écouter ce que dit le procureur de Paris ou ce que disent les enquêteurs, mais ne pas non plus, et je vous parle pas là de ceux qui ont d'ores et déjà échafaudé des théories, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont certains que c'est l'intervention de je ne sais quoi, que ce serait un attentat, je
vous
parle pas de ça.
Quoi, Jean-Sébastien ?
Mais le simple fait de se poser des questions ne peut pas être qualifié de complotiste, et il y a un vrai risque démocratique à renvoyer les gens dès qu'ils se posent des questions de ce côté-là, parce que faut faire attention à la crédibilité de la parole publique.
Julie de la Sablière là-dessus, sur cette communication publique, il faut parler avec prudence, évidemment, j'imagine, ne pas échafauder. Est-ce que le procureur Rémy Reitz a déjà, d'ores et déjà raison de l'orienter plutôt vers l'accident, ou est-ce qu'on devrait, pour l'instant, attendre?
Bah, je pense que j'ai pas tellement
de
réponse.
C'est très compliqué. Oui.
C'est très compliqué, à moins qu'ils sachent des choses qu'on ignore. Donc, on peut pas tellement juger à ce stade. Et la prudence, effectivement, est de mise.
Oui, prudence de mise, nous dit Julie de la Sablière. Audrey Gothard, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Parce qu'après tout, il y a ce flou autour de la première alerte. Il était 18h20. Il y a eu évacuation de la cathédrale. Puis 18h43. Eh bien, le feu part des poutres de la cathédrale et c'est le drame.
Comme les ouvriers ont pu être entendus par la brigade criminelle, ce flou est en train de se diluer de plus en plus. On arrive mieux à comprendre ce qui a pu se passer. Quant à l'aspect communication, pour avoir vécu beaucoup d'événements dramatiques en tant que journaliste, je peux vous dire que l'absence de communication est ce qu'il y a de pire. Donc un procureur qui se présente en disant... Je suis d'accord avec vous, Jean-Sébastien, se présente en disant, en donnant des éléments, mais qui ne sont pas complets, parce que à l'heure dite, il n'a pas entre les mains suffisamment d'éléments pour avoir un diagnostic. Effectivement, ça suscite des questions et c'est normal. Mais de toute façon, il est bien plus positif de dire peu que de ne rien dire.
Mais peut-être pour éteindre éventuellement les doutes qui pourraient démarrer fortement et tourner en boucle sur les réseaux sociaux.
Oui, absolument.
Dire peu et
continuer, c'est la méthode anglo-saxonne, c'est dire peu, redire et puis petit à petit effectivement et montrer que l'enquête avance et donner de plus en plus d'éléments jusqu'à l'élucidation des faits.
Serge Rue, vous avez été un des premiers à la mairie de Paris à tweeter lundi soir quand vous avez aperçu depuis l'hôtel de ville, j'imagine, les premières fumées au-dessus de Notre-Dame de Paris, les choses sont allées très vite.
Oui, ce tweet c'était simplement pour dire éviter le quartier.
Éviter le périmètre.
Parce qu'on voyait bien que le drame était extrêmement fort. Mais moi, j'aimerais qu'on reste sur le degré d'unité qu'il y a eu ce soir-là. C'est assez incroyable dans Paris et dans le monde entier. Donc ce pays est incroyable parce que il s'affronte en permanence et là il y a eu une unité. J'ai tweeté des déclarations des uns et des autres ou des personnes dont je ne suis pas fan particulièrement tous les jours, mais je trouvais qu'ils disaient des choses vraiment très bien. Donc cette unité là, ce moment là a été très fort et c'est celui là qu'il faut préserver. Alors après le complot, les complots, les photos qu'on nous a montrées. Et où l'objet des fonds qui ont été donnés, Je pense que restons à l'unité, c'était bien, non ?
Allez, restons à l'unité, nous dit Serge Auru, pour clore cette première demi-heure des informés. Dans la deuxième partie de notre émission, eh bien, nous évoquerons Emmanuel Macron et sa communication empêchée. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des informés.
Pollen, acariens, bactéries, virus, moisissures, poils d'animaux, formaldéhyde, tous ces polluants et allergènes sont retrouvés dans nos maisons. En fait, l'air intérieur peut être 5 fois plus pollué que l'air extérieur. La bonne nouvelle est que le purificateur Dyson PureCool capture plus de 99% des particules aussi fines que les virus chez vous pour que vous ne les respiriez plus. Dyson PureCool, changez d'air. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions, avec vous Sébastien Léas pour Météo France.
Demain, la journée s'annonce douce, calme et lumineuse. Les maximales continueront leur progression. Il fera 20 degrés à Aurillac, Nancy et Toulouse, 22 degrés pour Lille et Rouen, 23 degrés à Paris, Dijon, La Rochelle et à Marseille, 24 degrés à Lyon, Rennes et Bordeaux, et même 26 degrés à Clermont-Ferrand, mais à peine 18 degrés à Perpignan et 19 degrés à Biarritz. Sur le Bas-Languedoc et plus localement en Basse-Vallée du Rhône, le début de journée sera gris à cause de nuages bas et de bandes brouillard. Ces grisailles se dissiperont progressivement. Demain, le soleil sera souvent voilé à cause de bandes de nuages élevées assez épais. Dans le sud-ouest, le ciel sera même blanchâtre, alors que sur l'extrême nord et la façade orientale, on observera que quelques fins filaments nuageux. L'après-midi sur le Jura et les Alpes du Sud, le ciel deviendra plus variable et une petite averse pourra se produire sur le Mercantour. À noter aussi beaucoup de vent sur le sud du Massif central et les Pyrénées et de violentes rafales de vent d'OTAN, notamment sur les hauteurs du Tarn.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Romain Desec.
Bonsoir. Rebâtir Notre-Dame en 5 ans est tout à fait réalisable. Conclusion du tour de table organisé cet après-midi à l'Élysée entre Emmanuel Macron, des ministres et plusieurs experts. C'est l'ancien général Jean-Louis Gorgelin qui va piloter tout ce chantier. Les cloches des cathédrales ont sonné un peu partout dans le pays, à Bourges par exemple, où une certaine Barbara Hendricks a chanté, elle qui avait donné de sa voix lors des obsèques de François Mitterrand en 1996 à Notre-Dame. Elle aimerait que la ferveur populaire née autour de cet incendie débouche sur plus de solidarité entre les hommes. On l'écoute.
J'étais si triste. Le lendemain, j'étais vraiment ravie quand j'ai vu qu'il n'était pas totalement détruit. C'est quelque chose qui nous appartient à tous. Les choses qui arrivent dans la vie comme ça nous rappellent que nous sommes les mêmes. On fait partie tous de cette famille de l'humanité. Aujourd'hui, on parle toujours des crises d'immigration, des crises d'économie, mais on a une crise de morale, on a une crise de cœur. On était capable de faire quelque chose comme Notre-Dame. Nous sommes capables d'aider les uns et les autres et d'aimer plus.
Et un élan de générosité incroyable, plus de 850 millions d'euros de dons. Emmanuel Macron recevra demain à l'Élysée les pompiers qui ont permis d'éviter la destruction totale de la cathédrale. Dans l'actualité également, le dioxyde de titane qui sera interdit d'ici le 1er janvier prochain. C'est un additif, le E171, que vous trouvez sur l'étiquette de certains aliments. Mesure de précaution du gouvernement qui suit les recommandations de l'ANSES. L'agence de sécurité sanitaire n'a pas pu lever les incertitudes concernant la dangerosité de ce produit. Le football, décidément, le 8e titre de champion de France se refuse au PSG. Les Parisiens ont l'occasion de le décrocher. Seulement, Cédric Guillou, eh bien, ils sont menés 3-1 par le FC Nantes.
Oui, ils sont en grande difficulté, les joueurs du Paris Saint-Germain. Aucune réaction parisienne dans cette deuxième période, alors qu'effectivement, les Nantais ont fait le break à la 52e minute de jeu grâce à un but de Diego Carlos. Alors Diego Carlos ou Dani Alves contre son camp, but consécutif à un corner de Valentin Rongier. Il y a eu un cafouillage dans la surface de réparation. Le ballon est arrivé sur Diego Carlos et il semblerait que Diego Carlos ait eu l'aide involontaire, bien évidemment, de Dani Alves pour propulser le ballon au font défiler le Paris Saint-Germain qui ne montre aucune réaction et qui a une attitude, on peut le dire, déplorable hein, ce soir face aux joueurs du Football Club de Nantes. Aucune détermination du côté du Paris Saint-Germain qui va une nouvelle fois laisser échapper l'occasion donc effectivement de conquérir ce 8e titre de champion de France. Il reste 14 minutes à jouer ici au stade de la Beaujoire et Nantes mène 3 buts à 1 face au Paris Saint-Germain.
Et il faudra peut-être attendre dimanche et la réception de Monaco 20h33. A tout de suite la suite des informés avec Jean-François Killy.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info, avec Julie de la Sablière, fondatrice de l'agence de conseil Little Wing, enseignante en communication de crise à Sciences Po, avec Jean-Sébastien Ferjou, co-fondateur et directeur d'Atlantico, et Serge Auru, conseiller auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et assez mécontent pour l'instant des contre-performances, Serge, du Paris Saint-Germain. Alors, nous allons revenir sur les conséquences de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et sans ce drame, nous ne parlerions ce soir que des mesures annoncées lundi par Emmanuel Macron. Elles ont fini par sortir, mais sous forme d'inéluctables fuites, qui n'ont pas été organisées, je le précise, fuites que l'Élysée n'a ni confirmées, ni commentées. Le chef de l'État les a évoquées à sa façon hier soir.
J'entends, comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais, en quelque sorte, l'espèce de fausse impatience qui voudrait que il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes.
Julie de la Sablière, est-ce que le chef de l'État, au fond, a raison de s'étonner de l'impatience des Français ?
Alors moi, je trouve cette séquence, quand même, ça mérite qu'on y revienne, parce que c'est vrai que la déclaration était attendue, on l'a montée en épingle sur tous les médias toute la journée, cette allocution à 20h, allocution enregistrée. Donc, évidemment, quand ils décident de la reporter, tous les médias saluent en disant, c'est effectivement, c'était la bonne chose à faire, reporter. De toute façon, ils ne pouvaient pas diffuser une allocution.
Je sais pas si les médias ont salué.
Qui était enregistrée. Enfin, globalement, les réactions ont été assez compréhensives, et il paraissait logique qu'on n'allait pas diffuser une allocution qui, en plus, était enregistrée alors qu'il venait de se passer ce qui se passait et qu'on était en plein drame. Donc, c'est sûr que c'était impossible. Face à ça, évidemment, le texte de l'allocution était disponible pour tout un tas de journalistes. Je n'ai pas vu dans aucun média une question et un débat posé sur est-ce que c'est bien de sortir ces mesures, est-ce que c'est pas bien. En revanche, j'ai vu des chaînes d'infos déblatérer assez longuement sur le fait que c'était que des mesures, qu'il n'y avait pas de vision, que c'était et pour le coup,
France Info a eu accès aux dites mesures qui n'ont pas été donc dites officiellement et publiquement. Il n'y a pas de prononcé des mesures en question, donc nous commentons des choses qui, selon l'Élysée, n'existent pas. Nous faisons partie des fameux médias dont vous parlez à l'instant. Mais vous condamnez la pratique ou pas?
En fait, je trouve que, en tout cas, ça mérite, ça a dû vous poser une question au sein des rédactions, et ça mérite que ces questions-là, vous les fassiez partager à vos auditeurs. C'est-à-dire que vous avez choisi effectivement de faire sortir ces mesures, ce qui fait que on commente quelque chose qui n'a pas la tenue, qui n'a pas le message, qui n'a pas, voilà, on commente des éléments. Alors Macron va reprendre la main, il va communiquer mardi, il va annoncer des choses nouvelles pour réhabiller la mariée. Maintenant, c'est vrai que...
Donc vous pensez que les médias devraient être
partenaires du président de la République et
ne pas les sortir si
d'aventure... En tant qu'auditeur, j'aurais aimé que les médias qui les sortent expliquent pourquoi
réalité, c'est que l'Élysée diffuse auprès d'un certain nombre de médias la version du discours. D'ailleurs, ils ne le font pas auprès de tous. Donc après, c'est le risque qu'ils prennent. Ils n'ont qu'à le diffuser à personne. C'est eux qui l'ont diffusé. Moi, je trouve que... On peut toujours se poser ce genre de questions-là à l'infini. Il se trouve que le monde fonctionne comme il fonctionne et que l'enjeu de communication pour Emmanuel Macron, c'est de constater que la fuite a eu lieu et donc de reprendre la main sur sa communication faire cette espèce d'intervention un peu surréaliste hier soir où il vient pour finalement n'avoir rien à dire véritablement. Poser cette question-là, on a l'impression de retrouver François Hollande, commentateur de la vie politique. Enfin, il a rien de mieux à faire que de regarder BFM pour avoir un avis sur ce qu'il dit sur BFM. Non, mais qu'il envoie un porte-parole, qu'il envoie un ministre. Enfin, en termes de communication, pour le coup, c'est complètement absurde. J'entends la légitimité de la question que vous posez, mais quoi qu'il en soit, une fois que c'est fait, qu'Emmanuel Macron il est président de la République,
principe
il est
de réalité, tout à fait d'accord, mais Jean-Sébastien Ferjou,
il peut surtout, il a, semble-t-il, nous dit-il, en tout cas suffisamment médité sur les défauts de son prédécesseur pour ne pas reproduire la même chose. Donc la réalité, alors, c'est quand même que le grand débat, ça dure depuis maintenant des mois, que cette crise politique-là elle dure depuis des mois. Donc Emmanuel Macron, dans la mesure où les fuites avaient lieu, il pouvait reprendre la main. Il n'y est pour rien. Donc, en revanche, ce qui se passe après,
qu'on ne le commente pas comme un couac de communication du président de la République. Pour le coup, ce n'est pas le cas.
Nous avons quand même commenté le contenu des mesures en question. Serge Rutien, je me tourne vers vous. Ça vous a intéressé, vous, de connaître, au fond, ce qu'il y avait dans la boîte?
D'abord, c'est partiel. Donc, j'apprends que l'ENA risque d'être supprimé.
On va en discuter dans un instant. Oui.
Tout est partiel. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, il faut attendre les vraies mesures.
Audrey Goutard, c'est un petit procès en règle de la part de Julie de la Sablière sur les pratiques des médias que nous sommes.
J'entends tout à fait ce que dit Julie. Et en fait, dans le fond, on devrait inviter tous les Français dans les coulisses des médias. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment les choses se déroulent. C'est vrai que Jean-Sébastien Ferjou a raison. C'est vrai que certains médias bénéficient des discours avant d'autres, que l'Élysée donne ses discours parce que ça permet aussi aux médias plus lourds comme les télévisions ou comme les radios, etc., et comme les très gros médias, de se préparer, de préparer les sujets, de voir à peu près sur quoi va rebondir le président pour pas tomber des nues lorsqu'on fait par exemple un JT du 20h ou lorsqu'on fait une émission comme la vôtre, etc. Donc voilà pourquoi. Ensuite, à savoir, est-ce qu'on sort les informations une fois qu'elles ont été éventées par un média ? Donc un média sort l'info, est-ce que les autres doivent suivre, est-ce qu'on doit suivre ou pas, etc. Ou est-ce qu'on doit respecter cette espèce de parole donnée à l'Élysée ? C'est effectivement la question qui se pose, et c'est vrai qu'il est compliqué, à partir du moment où un média sort l'info, de ne pas embrayer de notre côté.
Ainsi, la marge de l'information. Oui, Jean-Sébastien Ferjou.
Il faut quand même aussi, l'Élysée passe son temps, pas seulement les ministres, à lâcher des infos à certains journalistes qui leur conviennent. C'est pas comme si dans d'autres circonstances, la technique du ballon d'essai n'existait pas. Donc la relation journaliste-politique à l'escalier.
Est assez inquiétant, je trouve, pour les Français, puisque ce que vous disiez, c'est qu'on ne sait pas finalement si ce sont bien ce qu'il y a dans la boîte à idées, puisque rien n'est officiel et tout est officieux, et ce sont des petites pistes qui sont lâchées comme ça.
Quand même que donc
pour les Français, ça doit être assez insécurisant.
Il a été diffusé qu'il y a une chaîne qui l'a reçu et qui l'a regardé. Donc je pense que quand même, arrêtons de dire on ne sait pas si c'est ça, si c'est pas ça, si on sait que c'est ça. Donc maintenant, il faut arrêter.
Non, mais in fine, rien n'est officiel.
On va avoir le débat philosophique de ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais ne faisons pas comme si ça n'était pas.
Attendez,
ça s'appelle les désinformés.
Que dites-vous, Serge Rue ?
Ça s'appelle les désinformés.
Un très bon jeu de mots. 20h40 sur France Info. Nous marquons une pause. Le rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Toutes les cloches des cathédrales de France à l'unisson, moment de communion un peu avant 19h, deux jours pile après les premières flammes sous le toit de Notre-Dame. D'autres rassemblements sont prévus, comme sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris demain après-midi. 48 heures après l'incendie, l'édifice dans sa globalité tient bon, mais certaines pièces sont fragilisées. Les pignons menacent de tomber. Ils vont être délestés par les pompiers. Ils sont une soixantaine encore sur place. Ils sécurisent le bâtiment, doivent décider de ce qu'il faut abattre ou consolider. Et la reconstruction est déjà à l'ordre du jour. Un concours international d'architectes est lancé pour la flèche. Et pour les dons, le gouvernement annonce qu'en dessous de 1000 euros, ils seront défiscalisés de 75%. Le député de Nouvelle-Calédonie, Philippe Gomez, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. L'élu UDI est cité dans une affaire sur la construction d'une centrale électrique. Il présidait par ailleurs une société du secteur de l'énergie. Le gouvernement interdit le dioxyde de titane dans les denrées alimentaires. C'est un additif, un colorant qui pourrait être cancérigène. Une mesure de précaution dès le 1er janvier 2020. Il suit donc les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et puis 2 millions de bouteilles de vin détruites. Les entrepôts d'un négociant du Bordelais à Carbon-Blanc, ravagés par les flammes. Les pompiers ont fini par maîtriser l'incendie après 24 heures. D'intervention. Julien Alaphilippe, deuxième de la flèche brabançonne. Le cycliste français, toujours très en forme, est devancé au sprint par le néerlandais Van der Poel.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Petite parenthèse amicale, en direction de Serge Rue qui évoquait les très bons jeux de mots, les désinformés. Je signale quand même que les mesures qui ont été, on va dire, sondées depuis hier, eh bien, elles partent d'un texte dont effectivement seul le prononcé fait foi, mais il se trouve qu'il a été bizarrement prononcé, mis en boîte, mais non diffusé, ce qui est une subtilité additionnelle. Mais il y a un prononcé qui existe quelque part.
Et qui a été vu.
Et qui a été vu. Bon, voilà, et donc, c'est, donc ce que dit. Ce que dit. Ben voilà, c'est fait. C'est chose faite.
Voilà.
Et puisque non, Julie de la Sablière nous invite à une certaine forme d'autocensure, ou
non,
de.
Non, pas d'autocensure. Ou
de, on va
non,
dire,
non.
Allez, de retenue,
non,
c'est
non,
ça.
D'explication par rapport à
Julie
vos audiences.
Elle a raison de poser cette question-là.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Je ne parlais pas de vous, je parlais de la colère plus ou moins feinte de l'Élysée, parce qu'il y a quand même quelque chose d'étrange. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils n'assument pas leurs mesures. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu l'incendie de Notre-Dame. Pour le coup, le discours en question, c'était celui-là, et c'est l'allocation en question. Donc moi, je veux bien que la restitution du grand débat, et qu'on considère que finalement, tous ces trois mois de débat, ce soit tout aussi bien, on change d'une journée à l'autre en fonction de l'humeur du moment. Mais ça paraît pas très sérieux. De deux choses l'une, soit l'Élysée est certain de son plan, et je veux bien croire, effectivement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, que la présentation, ce qui donne de la chair au discours, peut un peu changer la perception qu'on a des mesures prises séparément les unes des autres. Oui, sauf que quand vous lisez le discours en question, vous voyez pas particulièrement de sens émerger. Alors, et que c'est le vrai sujet, et que peut-être, d'une certaine manière, dans ce cas-là, c'est une chance pour eux. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la réalité étant ce qu'elle est, en termes de com', il fallait qu'ils reprennent la main autrement.
Cela va plaire à Julie de la Sablière. Nous allons commenter des shadow réformes, hein, puisque tout ça n'existe pas. Mesure phare, tiens, la suppression de l'ENA. Emmanuel Macron souhaite une refonte profonde de la haute fonction publique, favoriser l'égalité des chances, je le cite, sur des bases méritocratiques. On va écouter ce qu'en a dit chez nos amis de Sud Radio, Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse. Intéressant parce qu'il est issu de la même promotion Sangor qu'Emmanuel Macron, il est énarque lui aussi. Eh bien, il estime que ce n'est peut-être pas forcément une très bonne idée.
Oui. Il se prend pour De Gaulle, malheureusement, n'est pas De Gaulle qui veut. Non mais, très honnêtement, on peut disserter, réformer l'école, il y a plein de choses à réformer, elle n'est pas parfaite cette école. Mais c'est devenu, si vous voulez, le bouc émissaire. D'abord parce qu'il y a des Français qui pensent que pour être président de la République, il faut faire l'ENA. C'est faux. Ça n'est pas une école qui prépare à la politique. Si vous avez un problème avec la politique, c'est pas l'ENA qu'il faut accuser. Ce sont les gens que vous élisez et il faut en tirer les leçons de responsabilité. Et il y a un culot incroyable que de dire, alors qu'il a fait cette école, je dirais, de l'utiliser comme bouc émissaire pour se protéger, lui.
Serge Rue, bouc émissaire.
D'abord, le procès qu'on fait à l'ENA, c'est quoi? C'est qu'on forme une élite française qui n'est absolument pas formée au péril du XXIe siècle. Le dérèglement climatique, l'érosion massive de la biodiversité, les flux migratoires, des populations en danger. Donc ces hommes et ces femmes ne sont pas formés. Que ça s'appelle l'ENA ou n'importe quel autre nom que vous allez trouver, est-ce que nous allons former ces hommes justement aux défis du XXIe siècle? C'est ça la réalité. Nous avons un monde qui souffre. Qui souffre économiquement, qui souffre des flux incroyables de migration dus à des guerres ou au dérèglement climatique. Il y a des migrants, des réfugiés dans notre pays. Comment on doit les traiter? Et on voit comment on les traite d'une manière ignoble en France. Donc ouais. Il faut former ces hommes et ces femmes.
Pour vous, il faut changer cette école nationale. Voilà, il faut
changer.
Il faut forcément l'administration qui les traite comme ça. C'est quand même.
Jean-Sébastien Ferjou.
Ne mélangeons pas tout. C'est la décision politique qui traite les migrants ou les défis que vous venez d'évoquer me paraissent plus politiques que de nature gestionnaire.
Oui, mais
après que la plupart des élus ou que beaucoup d'élus premier rang soient énarques, c'est autre chose.
Pas seulement.
Mais il y a quand même quelque chose d'assez démagogique dans cette mesure-là parce que le sujet n'est pas l'ENA en tant que tel. L'ENA, non, mais le sujet, c'est la culture. C'est la culture des élites. Alors que vous appeliez ça l'ENA ou pas, ou que le mode de sélection des élites devienne autre, tant aussi longtemps que la culture restera la même, et si elle reste la même à Sciences Po, par exemple, de toute façon, vous reproduirez les mêmes difficultés. Mais c'est comme vous pouvez vous faire voter toutes les lois de moralisation que vous voulez, si la culture d'un pays ne change pas, rien ne changera. C'est en ça que cette mesure-là...
Vous dites
comme pour les armes aux États-Unis,
vous
les supprimez aujourd'hui, il y a un tel stock dans le pays,
pardon.
Vous supprimez l'ENA, il y a un tel stock d'ENARC, que peu importe, ça ne changera rien dans les 15 ans qui viennent.
Vous dites que la décision est démagogique. Néanmoins, ce qu'on peut noter, c'est que Emmanuel Macron, qui vient de l'ENA, effectivement, a nommé un gouvernement où il y a très peu d'énarques, deux énarques. Donc finalement, il est assez en cohésion avec ce qu'il a décidé et les gens dont il s'est entouré. Donc voilà, donc je trouve compliqué et assez injuste pour le coup de dire que c'était de la démagogie. Juste un petit point.
Si vous êtes complètement contradictoire, s'il n'a pas d'ENA dans son entourage, pourquoi supprimer l'ENA?
Justement, c'est qu'il considère que l'ENA ne produit pas les cadres
Quelle est la diversité de ces hommes et ces femmes?
C'est un vrai sujet, mais c'est la culture qui est en cause.
Quel est le but à poursuivre? Voilà, liberté,
mais
égalité, fraternité.
C'est
ce sujet-là.
Je voudrais entendre Julie de la Sablière qui ne s'est pas beaucoup exprimée sur cette question. On a entendu très souvent au cours de ces mois de révolte sociale, un discours anti-élite, notamment au départ sur les ronds-points. Est-ce qu'il n'est pas curieux de la part du chef de l'État de le reprendre à son propre compte pour, au fond, essayer de tendre la main aux Gilets jaunes?
Bah, effectivement, c'est un symbole. Après, je pense que l'ENA paye le prix aussi de... Pour le coup, c'est pas une école qui a su travailler son image. Il faudra en parler à Nathalie Loiseau quand elle pourra reprendre la parole. Mais
tête de liste aux européennes de Renaissance,
c'est,
oui.
C'est quand même étonnant d'avoir ce concours de circonstances d'une tête de liste aujourd'hui qui était aussi patronne de l'ENA. Mais c'est vrai que cette école, elle a pas su sauver son image, elle a pas su montrer sa modernité. Elle communique aujourd'hui sur le fait qu'elle a 26% de boursiers. Je pense que une information, effectivement, qu'on n'avait pas forcément, qui a plutôt surpris. Maintenant, c'est vrai que je rejoins Serge Aurus, c'est-à-dire que l'ENA, c'est quand même une... Ça forme une caste qui est surtout très, très, très forte à comprendre la complexité de l'État et gérer la complexité de l'État. Et finalement, on a créé un État tellement complexe qu'on a créé un corps de gens qui sont les seuls à pouvoir comprendre et décrypter et gérer l'État. C'est vrai que c'est pas les politiciens, les énarques. C'est ceux qui savent à peu près manipuler l'État. Donc si, en réformant l'ENA, on réforme aussi et on décomplexifie un peu notre État et on essaye d'en faire quelque chose d'un peu plus efficace, utile.
C'est précisément là où est l'enjeu. Et c'est ça où la mesure est un peu démagogique, parce que le sujet, ce sont les grands corps de l'État. Le sujet, c'est le classement de l'ENA et qui fait qu'en fonction des notes que vous avez à 24 ans, toute votre carrière est déterminée, les échecs que vous connaissez.
C'est pour ça que ça mériterait peut-être d'avoir un petit peu plus de contexte sur cette mesure.
Le sujet, c'est plus la culture, le mode de gouvernance qu'il y a en France que l'ENA en tant que telle. Ce serait politique.
C'est pour ça que cette mesure a besoin de son contexte.
Ce serait la même chose. D'autant que la réalité, c'est pas une suppression pure et simple de l'ENA, c'est une ouverture de l'ENA.
Dernière question, Serge Aurus. Quand on voit le Premier ministre qui invite lors de son discours de la restitution au Grand Palais, tous les patrons des grandes administrations nationales, forcément, il doit y avoir quelques énarques là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une forme de discours punitif à l'endroit des élites en question, qui sont quand même là pour faire appliquer les politiques décidées au plus haut niveau?
Ouais, je pense que quand on est responsable, on doit pouvoir subir les critiques et ne pas vivre... Parce que c'est vrai que des fois, on peut tenter de vivre dans l'arrogance avec ces personnes-là. Il y a des personnes remarquables qui sont issues de l'ENA, mais tous les postes de décision aujourd'hui, le directeur général, le directeur de cabinet du Premier ministre, du ministère des Finances, ils viennent tous du même endroit. Donc ils ont été formés aux mêmes choses.
C'est bien pour ça qu'il y a un défaut de politique, il y a un défaut de la décision politique, parce que c'est aussi une lâcheté politique dans un certain nombre de cas que de s'appuyer. Regardez la décision d'Emmanuel Macron, il avait dit qu'il ferait un spoil system, qui changerait justement les directions d'administration centrale pour avoir des gens qui soient en accord avec son programme politique. Il ne l'a pas fait. Qui plus est, il a décidé de réduire le nombre de gens dans les cabinets ministériels, comme si on pouvait gérer un ministère avec 5 conseillers. Donc la question n'est absolument pas celle de l'ENA en tant que telle, elle est celle de la faillite de la décision politique et de la lâcheté des responsables politiques, parce qu'au bout du bout, c'est eux qui donnent les ordres.
En tous les cas, cette shadow mesure, puisqu'elle n'existe pas encore, ou peut-être pas, fait débat, nous aurons sans doute l'occasion, peut-être, d'en reparler après le discours supposément programmé, peut-être, mardi, du président de la République. Tout cela est quand même un brin compliqué. 20h51 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Pour la première fois, un préfet dépose plainte pour des chants homophobes entendus dans un stade de football. C'était juste après Lens Valenciennes le week-end dernier. Et la mesure va devenir systématique. À chaque signalement, les préfets porteront plainte, annonce sur France Info la ministre des Sports, Roxana Maraciné, à nous. L'enquête se poursuit après l'incendie de Notre-Dame. De nouveaux témoins seront entendus demain par la brigade criminelle. Une dizaine de personnes l'ont déjà été depuis hier. La police scientifique commence sur place ses contestations et la piste accidentelle est toujours privilégiée, mais aucune autre n'est exclue, précise ce soir le parquet de Paris. Les dons continuent à affluer. La société Walt Disney promet 5 millions de dollars. Tout l'argent venu de France et d'ailleurs sera centralisé par un établissement public créé à cet effet. C'est une des annonces du Premier ministre Édouard Philippe ce matin.
En France, les contributions seront défiscalisées de 75% jusqu'à 1 000 euros. Force ouvrière se retire de la concertation sur la réforme des retraites. Entamée au début du quinquennat, elle doit bientôt prendre fin, mais le syndicat estime qu'il n'est pas écouté. Il ne veut pas cautionner la future réforme et s'inquiète des intentions du pouvoir sur l'âge légal de départ à la retraite. Et puis en football, pas de titre ce soir pour le Paris Saint-Germain. Il fallait pour cela gagner contre Nantes, mais les Parisiens sont en train de s'incliner 3 buts à 2 à la Beaujoire dans les derniers instants du match. Et puis dans moins de 10 minutes, maintenant commencent les derniers quarts de finale de la Ligue des Champions. FC Porto Liverpool et Manchester City contre Tottenham.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Ils sont passés presque inaperçus, mais n'ont pas échappé au radar des informés. Des informés en deux mots, hein, Serge Auru. Les adieux de Jean-Marie Le Pen au Parlement européen, c'était hier. Et le doyen sortant de l'Assemblée européenne n'a pas fait dans la dentelle.
La révolution démographique qui a porté en 50 ans la population mondiale de 3 à 8 milliards d'habitants a déclenché un phénomène migratoire géant dont nous ne percevons que les prémices. Face à ces perspectives angoissantes, l'Europe se révèle impuissante. Pire, elle paralyse les réactions nationales qui devraient mobiliser les peuples qui la constituent. Député qui est resté aveugle, sourd et muet, la postérité vous maudira.
Serge Auru, il n'y en a plus des comme lui. Vous pensez qu'il a réussi sa sortie, Jean-Marie Le Pen ?
Je pensais à mon père lorsqu'il est venu libérer Paris en écoutant Jean-Marie Le Pen.
André Goutard.
Je me disais qu'à 90 ans, être toujours aussi énervé aux portes de la mort, c'est très étonnant quand même, cette rage, cette colère permanente.
Que dit Jean-Sébastien Ferjou ?
C'est sa sincérité à lui, effectivement. Mmh. C'est cet homme est resté constant, un homme agacé, énervé, en colère. Et la chute de son discours a été extraordinaire. Et alors, à 90 ans, aucune paix finalement en lui.
Serge Auru, je reviens vers vous sur votre moment d'émotion. Je vous ai laissé respirer une minute. Pourquoi avez-vous dit cela à l'instant ?
Parce que c'est, je crois que les valeurs qu'on a inculquées sont en permanente contredite par ce genre de, par ce jargon, même s'il est, il y a une dialectique extraordinaire, une connaissance de l'histoire extraordinaire. Mais je crois qu'il y a un passé de cet homme et qui nous porte préjudice.
Ouais, je lis de La Sablière sur la personnalité de Jean-Marie Le Pen. C'est une page qui se tourne sur un personnel politique du passé, selon vous.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient dans ses propos. Enfin, intéressant. Il revient quand même sur ce nationalisme, cette Europe des nations, la nation, le seul cadre légal, moral, politique dans lequel on peut vivre. Et en fait, ça oppose un peu ce nationalisme au populisme. Aujourd'hui, finalement, le Rassemblement national, lui, il finit sur un constat d'échec, d'amertume, d'impuissance de l'Europe, de finalement, voilà, les périls qui sont selon lui devant nous sont toujours aussi menaçants et l'Europe ne fera rien. Et puis à côté, il a Marine Le Pen, le Rassemblement national, qui en France caracole quand même en tête des sondages, fait jeu égal avec La République en marche pour les élections européennes, qui est un parti populiste assumé. Qui est dans une Europe aujourd'hui où il y a des alliés partout pour écrire une nouvelle histoire. Et c'est vrai que ça contraste un peu entre cette espèce de vieille vision du nationalisme et puis ce populisme qu'on voit éclore dans tous les pays et qu'on a de plus en plus de mal à maîtriser.
Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes d'accord avec ce que dit Julie de La Sablière ? Ou est-ce qu'au fond, avec ses mots à lui, qui sont sans doute très durs, hein, Jean-Marie Le Pen pointe quelque part des thématiques qui sont aujourd'hui sur la table dans la campagne des européennes ?
Elles sont sur la table dans la campagne des Européens. Elles étaient peut-être présentes dans l'émotion des Français avec Notre-Dame de Paris. Enfin, je trouve que le mot nation est devenu un mot démonisé. Je vois pas ce que Jean-Marie Le Pen a dit là de choquant. Il se contente de constater une réalité. Jean-Marie Le Pen a pensé et dit des choses extrêmement choquantes qui lui ont valu la réputation qu'il a. Pour le coup, on se souvient tous de ses saillies antisémites. Oui, oui, oui. Je n'ai aucun doute sur le fait que Jean-Marie Le Pen ait pu avoir une vision du monde raciste. Proprement parler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Marine Le Pen a voulu rompre avec son père. Donc il est éminemment condamnable par bien des aspects. Constater le défi culturel, civilisationnel des flux migratoires, de ce que ça fait enfin sur à un continent tout simplement d'avoir une population qui pour partie change, je ne vois pas en quoi c'est choquant. Non, et précisément
allez,
vouloir à chaque fois démoniser les gens qui se contentent de regarder les
enquêtes
qui se posent.
Je conclue, ça n'est pas une question d'être choqué, c'est juste effectivement on peut relever que cet homme est toujours en colère et aigri à 90
mais
ans.
Alors, et alors, peut-être qu'il continue
à devoir 320 000 euros dans l'affaire des assistants.
De sauver la planète sans vouloir sauver les hommes qui vivent
pardon,
dessus.
Pardon,
mais on n'a pas besoin d'être raciste, on n'a pas besoin d'être antisémite.
Je ne vous dis pas l'inverse. Allez, ouais, mais je vous dis pas l'inverse, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous dis, par ailleurs, il se trouve que Jean-Marie Le Pen s'est rendu coupable de bien des dérives racistes ou antisémites.
Allez, c'est la fin.
Se poser la question des migrations n'est pas en soi une réflexion raciste.
Jean-Sébastien Ferjou, que propose Atlantico aujourd'hui?
Je ne sais plus.
Oui, il est en colère.
Il est en colère lui aussi. Audrey Goutard, l'instant T sur France Info. Allez.
Alors, je reçois une femme formidable, Aude Bernagne, qui s'attaque à l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle est aujourd'hui misogyne et raciste.
La mémoire vous est revenue, Jean-Sébastien Ferjou, rapidement.
Absolument, mais en plus, c'est intéressant. Bien, évidemment, du Yes We Can au Yes I Can, le succès phénoménal de Michelle Obama. On est passé du nous au je, Emmanuel Macron aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça dit de notre époque?
À lire sur Atlantico. Merci, Jean-Sébastien Ferjou, Julie de la Salle hier, Audrey Goutard et Serge Auru d'avoir participé à ces informés de France Info. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.